Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Mathias Tavel. Bonjour Mathias Tavel.
Bonjour.
Vous êtes l'homme qui crée l'événement sur la 8e circonscription de Loire-Atlantique et sur Saint-Nazaire. Vous arrivez en tête face à Madame Dufeu pour La République En Marche ou Ensemble, on ne sait plus, tellement les étiquettes changent. Et vous, c'est la NUPES. Il faut s'habituer avec toutes ces nouvelles étiquettes. Alors, on voit que Saint-Nazaire vous a placé largement en tête. J'aimerais évoquer avec vous la façon dont vous allez concevoir votre rôle de député à l'Assemblée nationale, le sentiment que vous portez sur notre pays, puisqu'un député, même si vous êtes NUPES, même si vous êtes élu, vous siégez au groupe NUPES, vous avez quand même votre liberté d'action. Un député, on vote pour un homme, est un homme libre. D'abord, que pensez-vous de la situation de notre pays la question est influencée évidemment un peu au bord de l'explosion. On a l'impression que tout le monde en a ras-le-bol de tout et de tout le monde.
Oui, c'est assez juste comme description. Alors, on verra dimanche soir si ça se traduit par une forme de rejet et de sanction déjà pour le président de la République. Mais oui, plus largement, il y a dans le pays le sentiment que quand les Français votent, on ne respecte pas leur choix. Quand ils manifestent, on n'écoute pas leurs revendications. Ça a été le cas dans le quinquennat qui vient de s'écouler sur la question des retraites, sur les gilets jaunes. Quand des militants écologistes alertent sur un certain nombre d'enjeux, on les caricature.
Ou on leur tape dessus.
Oui, aussi, on les réprime. Les gilets jaunes, par exemple, ont été très durement réprimés. Et je crois qu'il y a besoin de retrouver un espace de débat. Et je suis, moi, de longue date un partisan de la 6e République, d'une assemblée constituante, mais ne serait-ce que là, avoir la possibilité d'avoir une assemblée nationale qui ne soit pas aux ordres du président de la République, mais qui soit un lieu, un parlement dans lequel on parle, si je puis dire, c'est quand même la raison d'être. Et je crois que déjà rien que ça serait un élément, disons, de renforcement de la cohésion du pays. Mais après, il y a des mesures à prendre pour que les gens vivent mieux. Et le pays ne cessera pas d'être en ébullition tant que le SMIC sera aussi bas, tant que les prix seront aussi hauts. Il faut d'abord répondre à cette urgence sociale pour trouver une manière d'avancer ensemble.
Oui, mais Mathias Tavel, vous évoquez le Parlement qui doit redevenir un lieu de débat. Je me suis amusé à regarder le niveau des questions au gouvernement dans les années 70 ou dans les années 80. Vous le comparez avec le niveau des questions au gouvernement aujourd'hui. Ça annonce, ça lit son texte, ça bafouille, ça sort des trucs, des portes ouvertes. C'est dramatique, le niveau intellectuel.
Ça, je vous laisse juger de cet aspect-là. C'est surtout que je crois que, bon, évidemment, le débat politique s'est beaucoup réduit à quelques petites phrases, quelques chaînes d'infos en continu, et que ça ne sert personne, évidemment. C'est pour ça, quand on dit la 6e République, la Constituante, prendre le temps aussi de discuter, de refonder ensemble nos institutions, quels sont les pouvoirs des citoyens, quels sont les pouvoirs des députés, qu'est-ce qu'on attend des élus, est-ce qu'on peut révoquer des élus en cours de mandat. Toutes ces choses-là sont aussi de nature, je crois, à recréer un lien entre les citoyens et leurs élus, entre les citoyens et les institutions, parce qu'on a besoin, pour gérer un pays de 67 millions d'habitants, d'institutions. On peut pas être dans une forme de démocratie directe permanente. Pour autant, les citoyens doivent, à chaque instant, pouvoir reprendre le contrôle, car c'est eux qui doivent décider.
Alors ça, c'était la première partie de votre réponse sur un peu le fonctionnement démocratique. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, sur le national, ça, on a entendu vos collègues candidats, Jean-Luc Mélenchon, on connaît maintenant vos propositions, hein, notamment sur le SMIC.
Oui, c'est nous, on défend l'idée qu'il faut augmenter le SMIC pour le porter à 1 500 € net par mois. Tout de suite, dès le mois de juillet, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale et donc si on a un gouvernement que dirige Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir un pays dans lequel les gens qui travaillent sont aussi maltraités, et parce que le SMIC concerne des métiers, des personnes qui sont particulièrement indispensables, ce qu'on a appelé les salariés de la deuxième ligne, voire de la première ligne. Les caissiers, les caissières, les femmes et hommes qui s'occupent du nettoyage des bâtiments, dans la restauration, y compris parfois dans un certain nombre de grandes chaînes qui auraient largement les moyens de payer bien mieux leurs salariés. On a besoin que le travail paye. et que le travail paye mieux. Et ça, ça passe par l'augmentation des salaires. Je crois que il faut arrêter de bricoler des choses. Là, le pouvoir d'achat, il n'y a pas 50 manières d'y répondre clairement. Il y a bloquer les prix, débloquer les salaires. Le reste, c'est beaucoup de bidouilles pour pas beaucoup de résultats.
Sur le salaire, on est tous d'accord avec vous. Évidemment, on peut pas vivre en France avec le SMIC actuel. Tout le monde est à découvert le 15 du mois ou le 20 du mois, dans le meilleur des cas. Mais il y a beaucoup de petits commerçants, d'artisans qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois aussi. Eux qui sont indépendants et qui, eux, ne peuvent pas s'augmenter leur SMIC. Et qui, parfois, ont quelqu'un qui travaille avec eux, qui travaille au SMIC et qui pourront peut-être très, très difficilement le monter à 1500 euros s'il n'y a pas eu de baisse des charges en contrepartie. Je parle bien, Mathias Tavel, hein, qu'on s'entende bien, des artisans, hein, des commerçants. Voilà.
Oui, mais je vais vous répondre très précisément sur cette situation. D'abord, rappelons quand même qu'aujourd'hui, l'essentiel des salariés qui sont au SMIC sont dans de grands groupes. Et on a parlé de la restauration collective, on pourrait parler de l'hôtellerie, on pourrait parler du nettoyage. Et je ne voudrais pas que, parce que dans certaines petites entreprises, c'est susceptible d'avoir des conséquences qu'il faut être en mesure de regarder, on passe sous silence le fait que beaucoup des gens pourraient être payés bien mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Après, sur la question que vous soulevez, et voyons quelles sont les causes de ces difficultés. La cause des difficultés, si on prend les petits commerçants, c'est quoi? C'est d'abord, j'allais dire, le pouvoir d'achat lui-même. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si les gens n'ont pas le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre pour éviter d'être seulement dans une logique consumériste, ben, ils n'iront pas consommer. Je prends un exemple souvent qui est assez banal, mais si vous n'avez une toute petite paye, le dimanche matin, à la boulangerie, vous n'achetez que la baguette. Si vous avez un petit peu plus, peut-être prendrez-vous quelques croissants ou quelques pâtisseries pour le déjeuner, et vous permettrez au boulanger ainsi de pouvoir recruter peut-être un apprenti pâtissier ou un vendeur de plus. Donc il y a d'abord ce cercle vertueux sur lequel je veux insister, sur le fait que permettre aux petites paye, d'être mieux payé, c'est d'abord soutenir l'activité économique du pays. C'est d'abord ça le raisonnement. Et puis après, nous, on porte un certain nombre de mesures pour les petites et moyennes entreprises sur le fait que l'impôt sur les sociétés doit être beaucoup plus juste et beaucoup plus progressif qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas normal qu'une PME paye plein pot alors que des grands groupes arrivent par des montages fiscaux à réduire leurs factures. Il n'est pas normal que les banques saignent par des frais bancaires ou des taux d'escompte absolument scandaleux, les PME, les petits artisans, les petits commerçants. Là encore, on a vu, avec la crise du Covid, tous n'ont pas pu bénéficier des prêts garantis par l'État comme ils auraient dû. Et aujourd'hui,
il y a eu beaucoup de refus.
Voilà, il y en a eu beaucoup, ou alors dans des montants qui n'étaient pas suffisants. Et aujourd'hui, ceux qui les ont obtenus, on leur demande, vont s'apprêter à devoir rembourser.
Depuis le mois d'avril, il faut payer. Alors qu'on nous avait dit, le gouvernement avait dit que ça retarderait encore d'un an.
Ben nous, non seulement, je pense qu'il faut qu'il y ait un retard, un report, surtout quand on voit la situation de l'inflation aujourd'hui, mais même dans certains cas, il doit pouvoir y avoir des annulations et une forme de caisse de défaisance où on met en commun cette dette et où on organise progressivement son remboursement par une base collective pour éviter qu'on ait des faillites supplémentaires. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'inflation, on a besoin d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Le remboursement de ces prêts garantis par l'État n'est pas, de notre point de vue, la priorité économique du moment.
Surtout que ces prêts ont été, ces fameux PGE ont été donnés parce qu'on a interdit aux entreprises de travailler. Hein. C'est pas les entreprises qui sont mis au soleil. On leur a interdit de travailler. À propos d'interdiction de travailler, j'ai suivi les interventions de vos collègues de la France Insoumise à l'époque à l'Assemblée nationale pendant les confinements, le couvre-feu, notamment la vaccination obligatoire. Sur cette question des soignants qui sont toujours virés, toujours pas payés. On a l'impression qu'ils sont suspendus. Bon, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous poser cette question.
Les élus de, de la France insoumise, mais pas seulement, ont dénoncé cette situation qui est absurde. Elle est absurde. Pourquoi elle est absurde? D'abord parce que d'un point de vue social et du droit du travail, elle est assez stupéfiante, car les personnes ne sont pas payées, mais ne sont pas licenciées non plus, si bien qu'elles n'ont pas droit au chômage, elles ne peuvent pas reprendre un autre emploi sans démissionner du leur, et pour autant, elles n'ont pas le droit de travailler. Par ailleurs, on interdit à des personnes non vaccinées, mais négatives de travailler, testées négatives au Covid de travailler, alors qu'on autorise des personnes vaccinées, mais testées positives, à venir travailler. Donc, il y a là une incohérence du point de vue de la santé publique. Quoi qu'on pense, par ailleurs, de la situation sanitaire et de l'importance qu'il y a d'accéder au vaccin pour limiter les formes graves chez un certain nombre de personnes particulièrement vulnérables. Mais au moins, la politique pourrait faire l'effort parfois d'être cohérente quand elle prend des mesures. Et là, on n'a même pas la cohérence. Donc nous défendons l'idée, bien sûr, que ces soignants doivent être réintégrés. Nous en avons besoin pour faire tourner les services hospitaliers qui sont en grande difficulté. Donc clairement, c'est une nécessité. Après, je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, et je suis souvent interpellé sur ce sujet, on me demande parfois si il faudrait pas en faire un étendard plus marqué. Je crois que la situation de l'hôpital, du service public hospitalier et de la santé en France est bien plus large et bien plus dramatique encore que cette seule question-là qui est déjà très injuste. Et clairement, la situation de l'hôpital avec M. Macron, c'est 17 000 lits supprimés depuis 5 ans à l'hôpital, y compris pendant la pandémie de Covid. Donc aujourd'hui, on nous invente des missions flash et des mesures et je sais pas quoi. Mais le fait qu'un certain nombre d'urgences, de services d'urgence vont devoir être fermés cet été, ou en tout cas réduire leur activité, comme c'est le cas à l'hôpital de Saint-Nazaire, c'est directement le bilan d'Emmanuel Macron et de la unité locale, en quelque sorte aussi. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un ensemble à reconstruire sur ces questions de santé, pour qu'on ait davantage de services publics, pour qu'on ait davantage aussi une politique indépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. Nous défendons avec la Nouvelle Union Populaire l'idée qu'il y ait un pôle public de médicaments pour que nous puissions définir quel est l'intérêt général en termes de santé publique par la délibération collective et la démocratie seulement.
Oui, avec aussi la liberté à chacun de se soigner, ça c'est important. La liberté, je dis bien, qu'on n'interdise pas certains médicaments, qu'on n'en impose pas d'autres, qu'on ne dise pas « vous faites ça ». Chacun est libre, doit redevenir un peu plus libre de son corps qu'il ne l'a été depuis 3 ans.
Mais il y a plusieurs choses. Dès lors qu'on a des traitements...
Vous comprenez le sous-entendu de ma question.
Je le comprends très bien. Mathias Tavel. Puis on en discute très... Mais j'ai cette question de façon assez tranquille. S'il s'agit d'avoir la liberté de choisir entre des traitements dont l'efficacité est démontrée, c'est une exigence absolument fondamentale que l'on doit aux patients et aux médecins. Mais moi aujourd'hui, ce qui me préoccupe aussi énormément, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui veulent être soignés ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être parce qu'il n'y a pas de médecin, parce qu'on est dans un désert médical. Ils ne peuvent pas l'être parce que vous n'avez pas de rendez-vous avec un spécialiste avant plusieurs mois ou plusieurs, peut-être plusieurs années si vous êtes, par exemple, si vous cherchez, vous avez besoin de quelqu'un en psychiatrie. Parce que quand vous allez avoir besoin de soins, un certain nombre de soins ne sont pas remboursés ou alors vous devez faire l'avance et que vous n'en avez pas les moyens. Et que tout ça dégrade l'état de santé de la population. Aujourd'hui, on a vu avec le Covid que les personnes qui étaient en situation de diabète, en situation de maladie cardiovasculaire, étaient les plus vulnérables. Elles ne sont pas les plus vulnérables seulement au Covid, elles le sont d'une manière générale. Mais comment se fait-il que on soit aussi peu actif sur ces questions de santé publique? Comment se fait-il que on ne soit pas davantage dans la prévention sur la santé environnementale, sur la santé au travail, sur la santé à l'école, qui sont aujourd'hui des domaines qui sont ravagés. Allez parler avec n'importe quel enseignant, il vous dira qu'il a les plus grandes peines, parfois même à faire signer des dossiers par le médecin scolaire pour permettre à ses élèves d'accéder aux accompagnements auxquels ils ont droit. Allez demander aux travailleurs, aux salariés, depuis quand ils n'ont pas vu le médecin du travail. Allez demander aux associations qui travaillent sur la santé environnementale les difficultés qu'elles ont à faire simplement évaluer un certain nombre de risques avant même de penser seulement à les réduire. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur cette question-là.
Alors, je voulais vous poser des questions plus personnelles, Mathias Tavel, maintenant. Si vous êtes élu, à quelle commission envisagez-vous de siéger? Quels sont les sujets nationaux ou internationaux sur lesquels vous avez envie de vous impliquer compte tenu de votre parcours politique, de votre passé politique, puisque vous étiez au cabinet de Jean-Luc Mélenchon, vous avez forcément été amené à suivre des sujets très plus spécifiques. Voilà.
Oui, bien sûr. Bon, déjà, on va essayer de faire en sorte que dimanche, je sois élu. On m'a dit que c'est parfois une coquetterie, mais non, c'est une élection. Et quand c'est pas fait, c'est pas fait. Après, clairement, je l'ai dit en
comme un journaliste, on doit jamais annoncer la fin de. On doit jamais dire que la pierre est tombée par terre, même si elle est en cours de vol. Il faut attendre.
Exactement. Voilà. Après, évidemment, moi, je l'ai dit en présentant ma candidature ici à Saint-Nazaire. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'économie maritime. J'ai participé à l'écriture et même coordonné l'écriture du programme de Jean-Luc Mélenchon sur la mer, le développement des énergies renouvelables, le renforcement et en même temps la bifurcation écologique de tout ce qui touche à la construction, à la déconstruction navale. Donc tous ces enjeux-là qui sont très liés, donc très, très présents dans cette circonscription, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé depuis de nombreuses années, y compris quand j'étais au cabinet de Jean-Luc Mélenchon il y a maintenant plus de 5 ans. Et puis après, d'une manière générale, la question centrale, je crois, pour notre pays et pour le territoire, c'est comment on crée de l'emploi de qualité et de l'emploi industriel dans un objectif de planification écologique. Qu'est-ce qu'on fait pour que les industries qui sont aujourd'hui extrêmement polluantes soient en capacité de l'être moins, soit pour développer d'autres activités qui permettent d'avoir autant d'emplois, autant de qualifications professionnelles, mais dans un respect de l'écosystème, parce que on le voit, l'enjeu climatique et l'enjeu écologique au sens large, peut pas faire comme si, faut arrêter la politique de l'autruche, quoi. On vient de perdre 5 ans d'inaction climatique avec monsieur Macron, qui a d'ailleurs été condamné pour ça. Maintenant, faut y aller, quoi. On a déjà pris assez de retard là-dedans.
Qui a été condamné, c'est l'État français, hein. Pas Monsieur Macron qui a été condamné.
Oui, c'est l'État et plus que l'État, c'est les gouvernements qui ont été condamnés, et singulièrement celui qui était en place au moment de cette condamnation, puisque c'est lui qui avait à produire auprès de la justice les preuves de son action. Et si les preuves de son action avaient été suffisantes, sans doute que le Conseil d'État n'aurait pas prononcé cette décision qui est un peu infamante. Mais en tout cas, voilà, quand on va à la centrale de Cordemais, par exemple, les salariés portent un projet. On dit qu'il n'est pas parfait. Peut-être bien, n'empêche qu'il existe et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Et que si ces salariés n'avaient pas porté ce projet, le seul avenir que M. Macron promettait à cette centrale, c'est la fermeture pure et simple et la suppression de centaines d'emplois sur le site. On ne peut pas avoir comme stratégie industrielle on pollue ou vous allez à Pôle emploi. Non, il faut construire le chemin au milieu, et ça passe par la planification, par l'investissement public, par le renforcement des droits des salariés, parce que eux, dans l'entreprise, sont capables de dire ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on pourrait faire autrement, là où il y a parfois des choses qui méritent d'être regardées et améliorées. C'est lier la question sociale et la question écologique, notamment à travers l'exemple de l'industrie, pour répondre à vos questions.
Donc finalement, c'est un sujet que vous connaissez bien, tout ce qui est naval, tout ce qui est la mer, parce que certaines personnes pensaient sur la circonscription que vous avez été, entre guillemets, parachuté à Saint-Nazaire parce que c'est une ville très à gauche, voilà, plutôt à gauche de la gauche. Donc il y avait une belle opportunité pour un proche de Jean-Luc Mélenchon, de M. Mélenchon, d'être élu. Mais finalement, à travers vos explications, on s'aperçoit que vous avez une légitimité de dossier, voilà, et d'affinité avec cette terre de Saint-Nazaire.
Moi, je suis conseiller régional de la région du Pays de la Loire, et on est venu à Montoire de Bretagne défendre les salariés de Cépol. J'interviens à la région sur la question de Cordemais. Je défends je suis opposé à la région à l'ouverture à la concurrence des TER lorsque la question est venue à la fin de l'année dernière, alors même que les premiers lots concernent la Loire-Atlantique et pas le département dont je suis originaire. Donc, bien sûr que c'est d'abord une volonté de porter la parole d'un territoire et ses valeurs et ses combats. On a parlé des Gilets jaunes, on pourrait parler de la bataille pour le droit à la retraite ici sur cette circonscription. Donc voilà, et quand j'ai dit que je venais ici avec mes camarades, c'est un moment où Jean-Luc Mélenchon devait être autour de 10% dans les sondages. Donc je crois pas avoir pris à l'époque le choix forcément le plus évident. Mais voilà, c'est ça. Je suis l'un des responsables, et même sans doute le principal responsable du programme Jean-Luc Mélenchon pour l'économie maritime. Okay. Et je crois que c'est cette circonscription qui incarne le mieux cet enjeu
cette
dans le pays.
L'économie maritime, voilà. Oui, c'est la huitième, évidemment, de l'Euro-Atlantique. Merci Mathias Tavel. Vous avez envie de dire un dernier mot? Voilà. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet, en plus de 20 minutes.
Peut-être juste un petit mot pour ceux qui se diraient que ça ne vaut pas la peine d'aller voter, qu'ils ne sont pas allés dimanche et qu'ils pensent que ça ne vaut rien. Si vous n'y allez pas, d'autres iront. Et ils décideront pour vous. Monsieur Macron ira voter, Bernard Arnault ira voter, les grandes fortunes de ce pays iront voter pour défendre les intérêts.
Les lobbies de Pfizer et de Big Pharma iront voter.
Et par contre, vous défendez votre intérêt. Et votre intérêt, c'est pas 5 ans de maltraitance sociale et 5 ans d'inaction climatique de plus. Et pour ça, on peut avoir une autre majorité, un autre gouvernement.
Alors oui, mais Mathias Tavel, je rebondis. C'est ok, je rebondis sur ce que vous dites. Mais vous faites peur aussi, parfois.
Ah bon?
Est-ce que le patron du salon de coiffure se dit je suis patron? Il y a des boulangers qui nous écoutent, par exemple, ils se disent je suis pas patron. Donc, comme ils n'aiment pas les patrons, ils ne m'aiment pas.
Alors,
que répondre? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris?
Pour les boulangers, je vais répondre par un clin d'œil. Avec la nouvelle Union populaire présente, je crois que c'est dans le Doubs, un boulanger pour être député. Il est au deuxième tour et nous aurons peut-être donc un boulanger.
C'est celui
député.
Qui avait protesté sur le fait de ne pas pouvoir avoir des apprentis. Non, mais derrière le sens de ma question, il y a des patrons de TPE, de PME.
Bien sûr.
Des gars qui gagnent 2000, 3000 ou 4000 euros hein, par mois, qui ne sont pas des Bernard Arnault et qui pensent être dans le camp du MEDEF, grosso modo, et qui ont peur.
Parce que le MEDEF est très fort pour faire croire qu'il parle au nom de tous les patrons, alors qu'il parle seulement au nom de les plus gros d'entre eux, et que nous défendons par exemple le fait qu'il puisse y avoir des élections pour savoir qui représente vraiment les patrons dans ce pays. Parce que je crois que les intérêts des petits patrons sont souvent plus proches de ce que nous portons, par exemple dans le rapport avec les banques, par exemple dans le fait que la justice fiscale s'applique aussi à leurs entreprises. Et pas seulement aux particuliers comme nous le défendons. Après, je vais répondre très clairement, notre projet n'est pas de nationaliser les salons de coiffure. Hein. Il y a bien d'autres choses à faire dans le pays
avant
ça.
J'aime bien cette phrase, elle avait été donnée il y a une dizaine d'années par votre économiste.
Oui, parce que nous défendons, nous, un projet d'économie mixte, c'est-à-dire un secteur public puissant, qui est là aussi pour orienter, par exemple, dans la bifurcation écologique, et puis à côté, un secteur privé où la concurrence existe, et où par contre, la concurrence doit se faire, selon nous, sur la qualité du travail, la qualité des productions, et non pas sur le dumping social ou le dumping écologique. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et puis, si je vous dis que je fais peur, je vois que Madame Dufeu fait une campagne d'affolement, là, à coller des petites affichettes quasi anonymes pour expliquer que si je gagne, il va pleuvoir des grenouilles sur Saint-Nazaire pendant 5 ans. Je voudrais la rassurer, je ne mange pas d'enfants. Et je n'ai pas l'intention de commencer à en manger si je suis élu député.
Merci Mathias Tavel.
Merci à
vous. Bonne fin de campagne à vous. Vous êtes le candidat de la NUP sur la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Mathias Tavel, qui était donc mon invité.